centralmente, ancora grande idea, vantaggio Juve, ha sorpreso con un inserimento alle spalle della difesa del Milan.
Buona partita per il Vizio, le va a pegare,
sur le service d'Edinson Cavani, apprêté pour un rendu entre l'Uruguayen et le Brésilien, une relation qui est en train de naître.
L'avant-match avec Ali Salahdine.
Bonsoir, bonsoir à tous. C'est un plaisir pour moi de vous retrouver pour la première fois dans la peau du présentateur de votre émission. L'avant-match, nous sommes ensemble pour une heure afin de parler football. Football en Afrique d'abord, avec bien sûr la Ligue des Champions et la première affiche des demi-finales entre le Wydad de Casablanca et les Sud-Africains de Mamelodi Sundowns ce soir à 20h. Et nous irons en Europe lors de la grande partie de cette émission pour parler du football en Angleterre. Manchester City a désormais une longueur d'avance sur Liverpool. Après sa victoire cette semaine 2-0 contre le voisin de United lors de la 31e journée, nous serons avec Aurélien Devernois pour parler de ce sprint final qui s'annonce explosif. Nous parlerons également de l'équipe type de Premier League de cette saison, une équipe qui ressemble plus ou moins à une fusion entre Liverpool et City avec quelques surprises. On ira également en Espagne où le sacre du FC Barcelone en Liga n'est plus qu'une histoire de temps. En cas de succès ce week-end, les Catalans seront champions avant de retrouver Liverpool la semaine prochaine. La Liga Espagnola qui réserve encore des surprises en ce qui concerne la course pour les places européennes et pour le maintien. L'occasion sera idéale encore pour parler du Real et de sa pré-temporada anticipée. Hier, les Merengues qui ont fait match nul 0-0 contre Getafe. Enfin, on ira en Italie, on s'intéressera aux demi-finales de la Coupe qui ont souri à la Lazio Rome et à l'Atalanta de Bergame. Des demi-finales entachées par un nouveau dérapage raciste de la part des tifosi. Nous verrons tout cela avec Simone Rovera, notre spécialiste du football italien. Mais d'abord, nous sommes en direct avec notre spécialiste du football français et africain, Hervé Penaud. Hervé, bonsoir.
Bonsoir les amis, oh ça fait plaisir, la chère Ali, bah bonne première.
Et voilà, une première sélection, on espère qu'elle sera donc à la hauteur. Et ça commence avec vous, c'est un honneur pour moi de commencer avec vous, Hervé Penaud. On peut se dire tu tout simplement, je pense. Voilà donc.
Absolument.
Et pour commencer, donc, nous allons parler du football africain avec, bien sûr, cette première affiche des demi-finales de la Ligue des Champions, le Wydad de Casablanca qui va recevoir ce soir les Mamelodi Sundowns pour ce qui est devenu désormais un classique du football africain, Hervé.
Oui, absolument. Alors, c'est déjà, sont deux équipes qui se sont déjà rencontrées en poule. Alors, chacun a gagné sa manche, hein. Alors, si on regarde, si on estimait au but à l'extérieur, bah, ce serait évidemment le WAC qui serait vainqueur. Mais ça s'est joué à très peu de choses. Ça a été deux affrontements très, très serrés. Et on sait que cette demi-finale se jouera aussi, logiquement, sur peu de choses. Alors, l'avantage, on a toujours la sensation que l'avantage de recevoir au match retour est toujours peut être intéressant, même si c'est devenu de plus en plus infime au fil des années. Mais ce qu'il va falloir d'abord pour le WAC, c'est ce qu'expliquait très bien Faouzi Benzarti d'ailleurs, hein, c'est tenter de pas encaisser de but, parce qu'il vaut mieux aller sur un match retour avec ce côté vierge qui permet quand même de pouvoir, comme lors d'un match de poule d'ailleurs, une défaite 2-1, ce but qui change beaucoup beaucoup de choses. Donc ça va être un match serré. Ça va être un match dur. L'équipe du WAC a l'avantage donc de jouer à domicile. Je pense que le public va jouer un rôle énorme parce que là pour le coup, ça va être vraiment le 12e homme, hein, comme on connaît parfaitement les supporters, hein, de cette équipe qui sont capables de pousser leurs joueurs jusqu'au bout. Et c'est un effectif quasiment complet, hein, si on pense que Unajem n'est pas là, mais ça veut dire qu'il y a quand même des forces. Et puis, il y a surtout, à mon avis, un avantage qui est pas inutile en cette période quand même de match de match où les équipes n'arrêtent pas d'enchaîner, il y a des fatigues qui commencent à s'accumuler, parfois les petites blessures. Mais c'est que c'est une équipe qui a pas joué depuis dimanche dernier, alors que l'adversaire, les Sundowns, ont déjà joué mardi, ont dû voyager le soir ou le lendemain, et on ne sait pas exactement dans quel état physique ils seront. Autant pour le WAC, le championnat semble, à première vue, je dis, quasiment plié, ils seront champions du Maroc une nouvelle fois, alors que de l'autre côté, chez Mamelodi Sundowns, ils sont deuxièmes, il va falloir qu'ils reviennent sur le leader du championnat d'Afrique du Sud, donc il y a encore cet objectif en tête. Et justement, le match qu'ils ont joué mardi était important, Et ils arrivent, ils auraient même aimé, d'une certaine manière, que ce soit un peu repoussé, cette confrontation, pour pouvoir avoir un peu plus de temps. Et donc ça, sur ce laps de temps supplémentaire pour Wydad, eh ben, ça peut être une possibilité d'essayer de mettre d'entrée une sorte de pression physique, de rythme, de puissance, qui pourrait mettre à mal au bout d'un moment cette équipe sud-africaine qui vient tout juste de voyager. Donc il y a un léger avantage quand même pour les Marocains aujourd'hui. Maintenant, il va falloir le concrétiser sur le terrain. Mais c'est un match qui va être très très serré, très très tendu.
Voilà, léger avantage pour le Wydad de Casablanca après avoir conforté sa première place et avoir tenu tête au Raja de Casablanca qui revenait bien en Botola Pro Maroc Télécom. Sur ce match, ça va être une autre histoire. Sur ces 6 derniers matchs entre les deux équipes, les Casablancais ont empoché 3 victoires contre 2 nuls pour le club phare de la capitale sud-africaine et 1 nul. L'autre affiche des demi-finales, Hervé, aura lieu demain. Et là aussi, c'est 2 poids lourds du continent africain qui se retrouvent. L'Espérance de Tunis, tenant du titre, et le tout-puissant Mazembe. Un mot concernant cette affiche du dernier carré, Hervé?
Là, l'Espérance semble quand même très. Ah, je dis pas très largement, non, mais semble quand même la favorite de cet affrontement-là. Alors, on voit que le tout-puissant Mazembe revient au très haut niveau, qui a eu quelques accros ces dernières années, mais enfin, c'est récente, hein, puisque on sait que c'est un des poids lourds du football continental. Mais l'Espérance fait quand même une grosse Ligue des Champions, hein, c'est l'équipe vraiment qui semble se dégager aujourd'hui, hein, et puis c'est le favori peut-être aussi parce qu'il est déjà champion d'Afrique en titre. Donc, à première vue, quand même, l'Espérance a un avantage. Maintenant, c'est toujours pareil, hein. Ils vont rejouer leur match aller à Rhadès d'entrée. Il va falloir marquer son territoire, ce qu'ils ont déjà fait précédemment, notamment de la phase de groupe où ils ont été assez impressionnants et aussi lors des quarts de finale. Donc, léger avantage. L'intérêt aussi, c'est qu'il y aura un bon arbitre parce qu'on sait qu'entre les deux équipes, ça peut être tendu au niveau arbitrage. Il va falloir quelqu'un qui sera un petit peu serré tout ça. Et Papa Gassama, quand même, l'arbitre gambien, est quand même l'une des références du football africain. Donc, ça devrait être aussi important. Important pour le sort de ce match.
Voilà ce qu'on pourrait dire à propos de ces 2 affiches des demi-finales de la Ligue des Champions d'Afrique avec ce soir à 20h le Wydad de Casablanca qui reçoit les Mamelodi Sundowns et puis demain l'Espérance de Tunis va accueillir le tout-puissant Mazembe. On reste avec nous Hervé, on va parler d'un autre fait qui a marqué la semaine et que personne ne voyait venir. Bon, il y avait cette requête de la part de la fédération qui a eu gain de cause. La sélection marocaine olympique est toujours en lice pour retrouver Tokyo en 2020, puisque la CAF a sanctionné la République démocratique du Congo pour avoir aligné Arsène Zola lors de ce match qualificatif pour la CAN. Ça change tout pour le Maroc et c'est un coup dur pour la RDC, Hervé.
Ah, terrible coup dur pour la RDC, mais logique coup dur. D'ailleurs, la RDC, la fédération, a fait tout de suite un communiqué pour faire entre guillemets amende honorable, pour pointer du doigt les problèmes qu'ils ont pu avoir en interne sur ce cas précis. Mais enfin, ça paraît hallucinant et totalement aberrant, c'est-à-dire de faire une erreur de cet ordre à ce niveau de la compétition. Alors, ils seront suspendus pour la prochaine CAN U23, d'ailleurs. Mais ce qui est très important pour le Maroc, c'est qu'il y a toujours la possibilité d'aller à Tokyo aux Jeux Olympiques. Et on sait que ça, c'est l'une des volontés absolues du président de la fédération marocaine, qui est aussi de représenter le pays lors de ces Jeux Olympiques. Et puis, le Maroc, qui a eu quand même des énormes résultats ces derniers temps, depuis 1 an, 2 ans, on sent une remontée du football marocain. Et bien, il y a eu cet accroc. Alors, il y a eu aussi l'accroc lors de la CAN des U17. Pareil, il y a eu aussi ces soucis avec des problèmes d'âge qui ont été évoqués par le président de la fédération. Mais là, pour le coup, il y a possibilité maintenant d'aller à Tokyo. Donc c'est vraiment l'avenir qui d'un seul coup qui était assombri pour cette génération-là, et eh ben qui s'ensoleille d'un seul coup. Et donc il va falloir maintenant profiter de cette occasion pour aller jusqu'au bout et pouvoir se présenter à Tokyo.
Voilà donc la sélection marocaine olympique qui n'a pas réellement convaincu et qui est appelée à se remobiliser avec cette deuxième chance que lui offre le destin. Et voilà ce qu'on pourrait dire à propos du football africain. On va voyager à présent en Europe et plus précisément en France avec vous, Hervé Penaud, où c'est ce week-end qu'aura lieu donc la finale de la Coupe entre le Stade Rennais et le Paris Saint-Germain. Le Paris Saint-Germain champion de France, mais qui n'a pas convaincu une fois de plus pour la première saison saison de Thomas Tuchel sur le banc parisien en face. Le Stade Rennais a séduit avec un huitième de finale de Ligue Europa. Elle a failli créer la sensation face à Arsenal et se retrouve donc en finale de cette coupe face au monstre du championnat français. Qu'est-ce qu'on pourrait dire à propos de cette finale qui n'en a pas, qui a l'air déséquilibrée sur le papier?
Alors, elle a l'air déséquilibrée, effectivement, mais depuis quelque temps, le Paris Saint-Germain coince très nettement. Alors, attention, c'est pas le même Paris Saint-Germain qu'on va voir demain. Déjà, ça va être un Paris Saint-Germain surmotivé, et surtout un Paris Saint-Germain où vous allez retrouver les stars. Parce que le problème de ce Paris Saint-Germain depuis quelque temps, c'est qu'on s'est retrouvé totalement démunis. Ils ont été obligés de jouer avec le banc et l'arrière-branle blanc. Ils n'étaient même pas 18 sur le banc lors du match à Nantes. C'est-à-dire que c'était Paris qui avait été touché par les blessures. Mais les retours de Neymar, de Cavani, de Di Maria, Mbappé qui est là, lui, bel et bien là, bah tout ça fait que vous n'avez plus le même Paris Saint-Germain. Et c'est un Paris qui joue gros. Parce que imaginons simplement que Rennes vienne à battre le Paris Saint-Germain. Oh là 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 là, du côté des décideurs au Qatar, à mon avis, ça grincerait des dents. Rappelons-nous quand même que Laurent Blanc avait prolongé son contrat avec le Paris Saint-Germain avant d'être viré après la défaite contre Manchester City en Ligue des Champions. Eh bien, imaginons, que pourrait-il se passer pour Tuchel, qui a un contrat sur la table pour pouvoir prolonger, s'il était battu par Rennes? Ça ferait défaite contre Rennes, défaite contre Guingamp en Coupe de la Ligue et à domicile. Et puis, cette fameuse défaite contre Manchester United, un sous-Manchester United, un demi-Manchester United à domicile. 3-1, ça avait été terrible. Pire, à mon avis, que la remontada. Donc là, ce sera un échec aussi pour Tuchel, qui pourtant a fait quand même un travail incroyable en Ligue 1 depuis le début de saison et qui là commence petit à petit à piétiner. Et là, ça devient le match référence, le match test. On ne sait jamais ce qui pourra se passer si jamais il y avait une défaite du Paris Saint-Germain. Donc attention, moi je regarde tout ça avec beaucoup de recul. Je me dis que tout est possible encore au Paris Saint-Germain si jamais il y avait défaite. Maintenant, que peut faire Rennes contre ce Paris-là? Rennes, effectivement, a fait un très beau parcours en Coupe d'Europe, a remis un petit peu Rennes, cette équipe bretonne, au centre de la carte du football français. C'est plutôt une équipe qui est rarement pointée du doigt pour ses bons résultats, mais plutôt pour ses inconséquences. Et là, vraiment, il y a quelque chose de nouveau qui est venu. Mais malheureusement, au championnat, ça va très mal. C'est une équipe qui ne gagne plus, qui a des grosses difficultés. Alors, ils sont imposés à Lyon pour venir en finale de Coupe de France, qui a été le gros coup, mais c'est le dernier gros coup qu'ils ont pu faire. Seront-ils capables de rééditer une performance de ce calibre contre le Paris Saint-Germain? C'est la vraie question. On va suivre ça avec beaucoup d'intérêt, et notamment Atem Ben Arfa. Va-t-il être capable enfin d'être bon contre le Paris Saint-Germain? Car souvent, quand il joue contre Paris, il y a un petit truc qui ne se passe pas toujours très bien. Stade de France, va-t-il être l'arène qui lui permettra d'exploser? On l'espère pour lui, en tout cas. Mais ça va être l'une des grandes clés de ce match-là. Avec un grand Atem Ben Arfa, on ne sait jamais. Maintenant, ils partiront vraiment pas favoris Rennes pour cette finale.
Un sacré challenge donc pour le Stade Rennais, Hatem Ben Arfa contre le Paris Saint-Germain. Coup d'envoi de la rencontre demain à partir de 20h, heure marocaine. Merci beaucoup Hervé Penaud pour toutes ces précisions et à la semaine prochaine.
Un plaisir, à bientôt.
Voilà, donc Hervé qui nous a fait part de cette impression concernant le Stade Rennais contre le Paris Saint-Germain demain. Donc le Paris Saint-Germain qui n'a pas vraiment convaincu cette saison alors que les transferts étaient stratosphériques et qui voulaient rafler tout sur leur passage. Ça n'a pas été le cas. C'est un peu comme ce qui se passe un peu du côté de l'Allemagne avec le Bayern Munich qui espérait aller le plus loin possible en Coupe d'Europe et qui s'est fait sortir en huitième de finale de la Ligue des Champions et qui s'est qualifié cette semaine pour la finale de la Coupe et reste toujours en course pour le titre de Bundesliga en Allemagne. L'Allemagne où nous retrouvons David Lortolari, notre consultant pour le football allemand. Bonsoir David.
Bonsoir Ali et bonsoir à tous.
Alors, on va s'intéresser d'abord à cette équipe du Bayern Munich qui s'est qualifiée cette semaine pour la finale de la Coupe d'Allemagne contre le Werder Bremen, 3-2. L'équipe qui est toujours donc en course pour s'imposer en Bundesliga, un seul point d'avance sur le Borussia Dortmund. C'est difficile, l'équipe qui peut tout gagner et à la fois tout perdre. Il va falloir faire très attention du côté du Bayern.
La fin de saison approche à grands pas avec quelques journées de championnat et une finale de coupe pour ce FC Bayern qui sera le 25 mai, et on n'est encore pas du tout fixé sur le bilan que la direction du Bayern va pouvoir tirer, et c'est évidemment très important parce que ce sera différent selon que le Bayern réussit le doublé, gagne la coupe et est champion, ou à l'inverse, dans le pire des cas, échoue en finale de coupe contre le RB Leipzig et devait être dépassé par Dortmund pour le titre de champion. Évidemment, ce serait très important pour l'avenir à court et à moyen terme de l'entraîneur Niko Kovac. Rien n'est fait pour le Bayern parce qu'il va y avoir en finale un adversaire en coupe, le RB Leipzig, que tous les observateurs du football en Allemagne s'accordent à mettre comme co-favori de cette finale. Le RB qui est très impressionnant en 2019, qui perd très rarement, qui est très solide, qui a des vraies certitudes autour de son entraîneur Rangnick. Et puis pour le championnat, il y a encore de vrais obstacles et de vrais écueils pour le Bayern. Les deux dernières journées, ce sera contre RB Leipzig, là encore, et contre Francfort. Deux adversaires qui sont très bien classés en championnat, troisième et quatrième, et qui peuvent faire perdre des points au Bayern. C'est vrai que Dortmund a lui aussi un calendrier difficile, mais pour l'instant, on peut dire que à quelques semaines de la fin de la saison, rien n'est fait encore pour le Bayern. Et évidemment, le bilan sera, je le répète, très différent si ça gagne dans les deux cas, ou si ça échoue dans les deux cas.
Voilà donc le Bayern qui devra faire attention lors de ces dernières semaines avant les vacances. Rien n'est encore fait pour l'équipe de Robert Lewandowski, où certaines rumeurs commencent à fuser, notamment des départs, une équipe qui serait différente la saison prochaine. On parle de plusieurs transferts, notamment de James Rodriguez qui est arrivé sous forme de prêt du Real Madrid. Et concrètement, qu'en est-il du mercato du Bayern et des probables départs surtout?
Le départ de deux grands noms, de deux noms importants, de deux stars du FC Bayern en cette fin de saison vers d'autres cieux pour les prochains mois se dessine doucement mais sûrement. James Rodriguez d'un côté, le Colombien, le milieu de terrain offensif colombien, n'a jamais caché les doutes qui étaient les siens pour son avenir, pour une éventuelle prochaine saison au Bayern. Il devrait repartir vers le Real et voguer peut-être vers d'autres cieux. Et pour Jérôme Boateng, qui est le deuxième nom que je voulais mentionner là, là aussi, on se destine à une porte de sortie tout à fait diplomatique entre le club et le joueur. Un entraîneur qui compte seulement à moitié sur lui, Niko Kovac, un joueur qui a envie de vivre peut-être un autre chapitre en vue de la fin de sa carrière, éventuellement vers l'Italie peut-être. Et voilà donc deux noms importants de cet effectif du Bayern qui sont très susceptibles, très probables pour un départ en vue de la prochaine saison vers un autre club.
Merci beaucoup David Lortolari pour toutes ces précisions. Le Bayern Munich qui devrait changer de visage la saison prochaine puisque l'équipe n'a pas réellement convaincu cette saison avec une élimination précoce en Ligue des Champions. L'équipe peut cependant s'imposer en Bundesliga et en Coupe. L'équipe qui retrouve donc la Bundesliga ce week-end à l'occasion de la 31e journée du championnat avec un déplacement à Nuremberg au moment où le Borussia Dortmund va accueillir la formation de Schalke 04. Direction l'Espagne à présent, l'Espagne où le sacre du FC Barcelone en Liga n'est plus qu'une question de temps, et on est en direct avec notre consultant pour le football espagnol, Frédéric Hermel. Frédéric, bonsoir.
Oui, bonsoir Ali, bonsoir à tous.
Voilà donc un bonsoir qui nous vient tout droit de Madrid pour nous parler des dernières indiscrétions de la Liga Espagnola avec le Barça qui est bien parti pour décrocher cette Liga, une Liga qui lui tend les bras pendant un moment et qui sera peut-être enfin auréolé ce week-end, le Barça, avant de retrouver la Ligue des Champions, Fred.
Oui, tout laisse à penser que le FC Barcelone va remporter la Liga hein, ce week-end, parce que voilà, il y a trois scénarios possibles qui vont dépendre des résultats du Barça et de l'Atlético. Voilà, ce samedi à 20h45 heure d'Espagne, si le Barça bat Levante à domicile au Camp Nou, il est d'ores et déjà assuré d'être champion d'Espagne. Donc là, le destin des Catalans est entre leurs mains. Un nul suffirait au Barça si plus tôt dans la journée l'Atlético n'avait pas battu Valladolid, et même une défaite du Barça serait suffisante si l'Atlético justement plus tard dans la journée, avait perdu face aux joueurs de Castille. Voilà, donc autant dire que le Barça sera champion samedi soir, et c'est tant mieux pour eux de pouvoir célébrer avec leur public une hégémonie incroyable des Catalans, qui montre bien que ce club, que cette équipe a été bâtie pour le long cours, pour la régularité. Voilà, on peut s'étonner quand même que sur la dernière décennie, les Catalans aient remporté 7 titres, 2 pour le Real et 1 pour l'Atlético. C'est quand même énorme, et ça montre bien l'hégémonie, je dirais même la dictature de l'équipe barcelonaise sur la meilleure Liga du monde. Voilà, il y a une régularité dans cette équipe qu'il n'y a pas eu du côté du Real Madrid. Voilà, un Real qui finalement s'est trop rapidement délaissé cette Liga. Dès qu'il y a eu quelques points de retard face au Barça, ils ont démissionné, les Madrilènes, et ils ont tout misé sur la Ligue des Champions ces dernières années. Et donc voilà, le Barça a su en profiter pour construire voilà cette hégémonie qui reflète, j'insiste, une manière de fonctionner qui est très très intéressante et très louable. Donc voilà, le Barça est un beau champion, est un champion tout à fait justifié, et on ne peut que féliciter les Catalans qui, j'insiste, devraient remporter la couronne espagnole dès demain soir.
Dès demain soir, Frédéric, où le FC Barcelone reçoit l'Evante à partir de 19h45. Le Barça qui est donc leader avec 80 points, soit 9 points d'avance sur l'Atlético Madrid. Restez avec nous, Frédéric, lors de la deuxième partie. Nous allons évoquer l'Atlético Madrid, justement, le Real Madrid, la course pour la Ligue des Champions et également la course pour le maintien.
Centralmente, ancora grande idea, vantaggio Juve, ha sorpreso con un inserimento alle spalle della difesa del Milan.
Buona partita per il Vizio, le ballon,
L'avant-match avec Ali Salahdi.
Bienvenue à vous aussi, vous venez de nous rejoindre sur Médien. C'est la deuxième partie de l'avant-match. Nous sommes ensemble jusqu'à 18h pour retracer l'essentiel de l'actualité footballistique. Nous avons parlé de football en Afrique et football en France ainsi qu'en Espagne lors de la première partie, en passant par l'Allemagne avec Frédéric Hermel et David Lortolari. Frédéric Hermel qui est d'ailleurs toujours avec nous pour nous parler de cette Liga Española qui tend les bras au FC Barcelone, leader avec 9 points d'avance sur l'Atlético Madrid. L'Atlético Madrid qui a déçu dans un premier temps, mais qui est tout de même en train de réaliser une bonne saison, Fred.
Ben c'est vrai que l'Atlético finit plutôt bien cette saison. Alors, il y a beaucoup de déceptions parce que cette élimination en 8e de finale, retour de la Ligue des Champions, 3-0 sur la pelouse de la Juventus Turin après avoir gagné 2-0 à l'aller. Bah, cette élimination a laissé des traces. Hein. Aucun titre pour les Colchoneros cette saison. C'est vrai qu'il y avait vraiment l'effectif pour faire beaucoup mieux. Après, du côté de l'Atlético, terminer deuxième devant le Real Madrid, c'est quasiment un trophée. On connaît l'antagonisme énorme qu'il y a entre les Colchoneros et les Merengues. Et donc, pour Diego Simeone et ses joueurs, et surtout les supporters et les dirigeants, de ne pas permettre au Real Madrid d'être deuxième, voilà, c'est plutôt pas mal. Être vice-champion, c'est plutôt pas mal pour les Colchoneros, qui ont montré, dans leur victoire face à Valence mercredi soir, qu'ils avaient de l'ambition. Parce que c'est vrai qu'il n'y avait quasiment plus rien à jouer pour les Colchoneros, alors que les Valenciens, eux, se battent toujours pour accrocher la quatrième place de la Liga, donc leur ticket pour la prochaine Ligue des Champions. Et ben, on a vu une motivation très belle de la part des Colchoneros, notamment de la part d'Antoine Griezmann, qui montre des signes très positifs. Il fait le boulot, et quand il déclare « nous ne sommes pas premiers, mais nous le serons un jour », ben, on a le sentiment qu'il est en train de dire qu'il va rester à l'Atlético la saison prochaine. Enfin, avec Antoine, on ne sait jamais, donc il faut mieux être prudent. En tout cas, voilà, un bon match de l'Atlético et puis un suspense qui demeure, hein, pour la quatrième place et cette Ligue des Champions de la saison prochaine. Plusieurs équipes sont comme Getafe, comme Valence, comme Séville sont sur le coup. Donc ça va être passionnant jusqu'à la dernière journée. De même que la relégation, puisqu'on voit que Huesca fait de la résistance et ne veut pas mourir. On voit que Valladolid l'a emporté et que justement ce Valladolid peut espérer le maintien, alors que ce n'est pas encore fait pour le Celta Vigo, que le Rayo Vallecano va lutter jusqu'au bout. Donc il y a plein de choses qui peuvent se passer, encore plein de suspense, pas pour le premier, mais pour la quatrième place et pour la descente. Donc ça va être passionnant de suivre cette Liga jusqu'au bout.
Ah, le suspense est d'actualité en Liga avec cette 35e journée. Le Barça donc qui va recevoir l'Evante, le FC Valence qui sera à Eibar pour la course à la C1. Le FC Séville sera de son côté à Gérone. Et puis en bas de tableau, le Celta Vigo va affronter l'équipe de Leganés. Pendant ce temps, le Real Madrid poursuit sa pré-temporada anticipée. L'équipe qui n'a plus de réel enjeu, si ce n'est aller chercher une deuxième place qui s'est éloignée un peu hier, Fred. Après ce match nul, disons-le, terne contre Getafe, 0-0, est-ce qu'il y a tout de même quelques petites conclusions positives à tirer côté merengue?
Oui, pour ce qui est du Real Madrid, un nouveau match nul, un 0-0 sur la pelouse de Getafe. Alors sincèrement, le match d'hier soir était plus agréable à suivre qu'on pouvait l'imaginer, tout simplement parce qu'on sait que le style de Getafe est assez brutal. On sait que le style de Getafe est très lié au marquage à la culotte, c'est rude, c'est l'équipe qui fait le plus de fautes de la première division espagnole. Mais finalement, on a vu une rencontre assez agréable malgré le 0-0. Il y a eu des occasions assez brillantes du côté de Getafe, avec notamment un double sauvetage extraordinaire de Keylor Navas, qui a de nouveau été préféré à Courtois par Zinedine Zidane. Et puis on a vu un Real Madrid qui s'est procuré des occasions, notamment par Benzema, comme d'habitude. Mais surtout, on a vu le festival du jeune Brahim Diaz. Alors, il n'est pas très connu. Il était engagé par le Real Madrid au Mercato de janvier dernier, en provenance de Manchester City, où il était formé en partie. Et il se trouve que Brahim Diaz a montré quelques gestes de technique absolument magnifiques sur la pelouse du Coliseum Alfonso Pérez, puisque c'est comme ça qu'il s'appelle le stade de Getafe. Et on se dit qu'il est en train de marquer des points dans le casting qui est en train de réaliser Zinedine Zidane pour la construction de son nouvel effectif de la saison prochaine. Donc 0-0, un résultat finalement pas très mauvais pour le Real Madrid, puisque l'attitude a été plutôt positive. Alors que Getafe est toujours quatrième, mais collé au même nombre de points que Séville, qui a battu le Rayo Vallecano 5-0. Donc là, vraiment une grosse course jusqu'à la fin de la saison, grosse compétition pour la quatrième place et donc l'accès direct en Ligue des Champions la saison prochaine. Et puis du côté du Real Madrid, on parle beaucoup de transferts, bien entendu, avec cette information qu'on m'a transmise aujourd'hui. Voilà, Hazard, c'est fait. Eden Hazard, selon toute vraisemblance, sera joueur du Real la saison prochaine. Il n'y a plus qu'à trouver le bon moment pour annoncer ce transfert. Donc c'est uniquement en fait quand Chelsea aura terminé son aventure en Ligue Europa et son aventure en Première Ligue. Voilà, Hazard veut bien faire les choses, veut avoir un dernier match à Stamford Bridge devant son public pour partir très, très bien et très proprement de Chelsea. Mais tout laisse à penser qu'il sera joueur du Real la saison prochaine.
Et vous partez très proprement aussi, Frédéric Hermel, au terme de cette émission, l'avant-match. Merci beaucoup pour toutes ces précisions qui nous viennent tout droit d'Espagne. Et de l'Espagne, on va s'intéresser au championnat italien et plutôt à la Coupe d'Italie qui a eu lieu cette semaine avec les affiches des demi-finales de la Coppa, des affiches qui ont souri à la Lazio Rome et à l'Atalanta Bergame. La Lazio qui s'est imposée lors des demi-finales, retour contre le Milan AC par 1-0 au moment où l'Atalanta a pris le dessus sur la Fiorentina. Fiorentina 2-1. Bonsoir Simone.
Ciao, buonasera, bonsoir.
Alors, on va s'intéresser à ces demi-finales de la Coupe qui ont souri donc à la Lazio et à l'Atalanta de Bergame. Des demi-finales entachées par un nouveau dérapage raciste de la part des tifosi du Milan AC. Une autre mauvaise nouvelle pour le football italien, Simone.
La Coupe d'Italie, malheureusement, nous laisse aussi une fenêtre triste liée encore une fois aux épisodes de racisme. Et un racisme qui a frappé deux fois dans la même journée, l'après-midi dans les centres de Milan avec un groupe d'une vingtaine de personnes qui ont été interpellées, qui a montré une banderole à l'honneur de Mussolini, donc leader du fascisme italien dans les années 30-40, et les soirs au stade avec des chants racistes contre les joueurs internationaux français Timoé Bakayoko. Malheureusement, c'était quelque chose de prévu parce qu'il y avait eu des soucis à la fin du match des championnats Milan-Lazio, gagné par Milan. On savait que les supporters de la Lazio préparaient quelque chose pour les retours. Et encore une fois, on a vu une lassitude totale des institutions italiennes qui n'ont pas arrêté les matchs, qui le lendemain de ce match n'ont pas pris la parole pour condamner cet épisode. Et contre tout ça, aujourd'hui, s'est livré dans une très longue et très belle entretien à la Gazzetta dello Sport, les dirigeants Leonardo, un grand homme de football qui a pris la parole pour défendre ses joueurs et pour attaquer encore une fois une politique sportive, mais aussi la politique italienne, qui ont rien fait pour éviter que le foot italien tombe encore une fois dans cette mauvaise image de racisme. C'est dur aussi pour une grosse partie des supporters de la Lazio. Ils sont 1 million en Italie. Et chaque fois, ces tifosi passent pour des tifosi racistes. Il y a une grosse partie du virage du groupe aussi Irreducibili qui est très, très politique, très proche de l'extrême droite, qui est à l'extrême droite. Et ça a fini pour mettre en mauvaise lumière aussi le reste de la tifosi que supportent leur club, font au stade pour supporter leur club. Mais c'est un problème que l'Italie doit résoudre parce que ça finit pour donner encore une fois une horrible image de notre pays, une horrible image de notre football. Et ça ne m'étonnerait pas si certains joueurs aujourd'hui ou demain ne voudront plus jouer en Italie ou ne viendront pas en Italie pour éviter des problèmes comme ça.
Voilà donc de graves épisodes selon le club du Milan AC, le club Rossonero qui a dit également espérer qu'avec l'engagement de tous toutes les mesures seront prises pour que le racisme puisse être éliminé des stades italiens. Un mauvais épisode que doivent oublier les Milanais, qui doivent également oublier la Coppa puisqu'ils ont été éliminés par une séduisante formation de la Lazio Rome qualifiée pour la finale. Une finale plutôt inédite avec de l'autre côté l'Atalanta Bergame qui a réussi l'exploit de sortir la Fiorentina après un match qui s'est conclu hier, et l'Atalanta pourra jouer la 4e finale de Coppa de son histoire, la première depuis 1996. Une belle finale qu'on n'attendait pas forcément, Simone.
Finalement, on a les deux finalistes de la Coupe d'Italie. C'est toujours long pour y arriver, parce qu'entre match aller et match retour de la demi-finale, il y a toujours plusieurs semaines, voire un mois. Mais là, on a la finale et on a la meilleure finale possible. Parce que si d'un côté, la Lazio a fait bien son boulot face au Milan. De l'autre, on a vu une Atalanta encore une fois épatante, extraordinaire, avec un jeu dynamique, offensif, rapide, total, parce que c'est une équipe où tout le monde participe au jeu. Donc, la plus belle finale possible, avec une Atalanta qui arrive peut-être favori, parce que sur un match la qualité des joueurs comme Iličić, Gomez, la force physique de Duván Zapata sont supérieures. La Lazio arrive un peu en difficulté. La victoire sur Milan, c'est bien sûr mérité pour l'équipe de Simone Inzaghi. Mais en face, il y avait un Milan qui a proposé rien, qui est en plein difficulté, où les joueurs n'arrivent plus à proposer des solutions individuelles qui avaient un peu sauvé sur le début de l'année 2019. Gattuso avec plusieurs victoires et des bons matchs nuls à l'extérieur. Aujourd'hui, Milan, c'est dans les durs. L'élimination de la Coupe d'Italie, c'était prévisible. Ça fait partie d'une période compliquée des Rossoneri. Il vient presque à penser que heureusement ils seront pas en finale de Coupe d'Italie parce que cette équipe n'aurait aucune chance face à l'Atalanta, qui après avoir fait un super match aller, il a gagné au match retour 2 en face à la Fiorentina. Et donc aujourd'hui, c'est avec grand plaisir qu'on va attendre les 15 mai avec cette finale Atalanta-Lazio.
Voilà donc une belle finale qui se profile en Italie entre l'Atalanta Bergame et la Lazio Rome. Ça sera le 15 mai prochain et on en parlera avec vous. Simone Rovera, merci beaucoup d'avoir pu être avec nous aujourd'hui pour cette émission. L'avant-match et le dernier chapitre de cette émission nous envoie du côté de l'Angleterre avec la Premier League où les deux ténors sont toujours aussi décidés de déterminer à décrocher le titre de Premier League récemment. C'est Manchester City qui a repris la main après sa belle victoire au cœur de cette semaine contre le voisin de United 2-0. Nous retrouvons sans plus tarder Aurélien Devernois, notre spécialiste du football anglais. Bonsoir Aurélien.
Bonsoir Ali, bonsoir à toutes et à tous.
Alors la semaine a été marquée par ce derby de Manchester qui a permis à Manchester City de croire à nouveau au titre. Et là, toutes ses cartes en main, si elle s'impose lors des 3 dernières journées, eh bien elle est assurée de remporter le titre de champion d'Angleterre puisque l'équipe compte 89 points en face. Liverpool compte 88 points, City au mérite et qui est bien parti pour conserver son titre.
Oui, eh bien, une nouvelle fois, Manchester City a démontré que non seulement il n'avait pas été champion l'an dernier par hasard, et on l'avait vu le nombre de records qui ont été battus par l'équipe de Guardiola la saison dernière, mais que surtout, ils étaient extrêmement bien placés pour de nouveau remporter le titre cette année. C'est vrai que ce match sur la pelouse de Manchester United, à Old Trafford, avait beaucoup d'enjeux, hein. C'était à la fois le derby de la ville du Nord et probablement le dernier gros obstacle sur la route de Manchester City avant le sprint final, les 3 derniers matchs qui restent à disputer. Et force est de constater que Manchester City a livré un très très gros match, extrêmement bien maîtrisé, face à une équipe de Manchester United qui a encore une fois perdu et qui montre vraiment toute l'étendue des carences qu'il y a dans cette équipe défensivement en termes de liant dans le jeu. C'est sûr que Solskjaer a dit qu'il allait avoir au moins 4 ou 5 joueurs qui allaient partir à l'intersaison. Très honnêtement, ça serait même pas étonnant qu'il y en ait plus que ça qui partent parce qu'il y a vraiment des joueurs qui semblent soit en bout de course dans cette équipe, soit qui n'ont plus la possibilité d'y gagner leur place. Ça a été vraiment un match tout en maîtrise de Manchester City avec beaucoup, beaucoup de. À la fois bon, de jeu en possession, ça c'est on va dire la patte de Guardiola, mais beaucoup de maîtrise dans la gestion des efforts, dans la gestion des temps forts aussi de l'équipe. Hein. Ils ont vraiment appuyé au moment où Manchester United avait l'idée ou en tout cas l'illusion qu'ils pourraient peut-être tenir un résultat. Et ils avaient plutôt bien tenu lors de la première période et Guardiola a donné des nouvelles consignes dans le vestiaire durant la mi-temps et dès le retour de la mi-temps, ça a été terrible pour Manchester United. Voilà, c'est une excellente équipe, cette équipe de Manchester City. Et quelque part, c'est dommage pour Liverpool parce que Liverpool peut être deuxième du championnat cette saison avec 97 points inscrits. Imaginez 97 points en championnat et vous ne remportez pas le championnat. Ben oui, parce que Manchester City risque d'en avoir 98. C'est complètement incroyable. Et ça a donné une situation un peu bizarre hein, quand même ce milieu de semaine parce que les supporters de Liverpool soutenaient Manchester United alors que c'est quand même un ennemi héréditaire. Les supporters de Manchester United, eux, se disaient bah, en fait, on va peut-être supporter Manchester City parce que vraiment, on déteste Liverpool. Donc, on ne savait plus qui supportait qui. Et il y a même un pundit anglais, un observateur du foot anglais sur Twitter qui disait bon, bah, au moins, Manchester City a désormais des fans. Petite moquerie sur le fait qu'en effet, City a peut-être une base de fans moins importante que Liverpool et Manchester United, même s'ils en ont malgré tout beaucoup.
Voilà, donc les fans des deux équipes sont servis, en tout cas avec ces belles prestations des deux équipes, même s'il n'en restera qu'un seul lors de la dernière journée de Première Ligue. Et à commencer par cette 36e journée où Liverpool va recevoir Huddersfield à partir de 20h ce soir. Tottenham sera lui chez lui face à West Ham, et puis Manchester City aura affaire à Burnley. Arsenal sera chez Leicester. Là on parle de la course à la coupe de la Ligue des Champions. Voilà ce qu'on pourrait dire à propos de cette prochaine 36e journée qui commence dès ce soir donc avec Liverpool. D'autre part, la semaine a été marquée par la sortie de l'équipe type de Première Ligue, une équipe qui ressemble plus ou moins à une fusion entre Liverpool et City, vu le haut niveau affiché par les deux équipes cette saison, avec quelques surprises. Le seul joueur à ne pas avoir été choisi et qui ne joue pas ni pour Liverpool ni pour City, c'est Paul Pogba. Un mot concernant cette équipe type, Aurélien?
Attention, scandale. Je suis un peu mon Hervé Penaud, mon Frédéric Hermel sur cette histoire, mais c'est vrai que ça fait beaucoup, beaucoup parler en Angleterre. Il y a un homme dans cette équipe type de la Première Ligue qui ne fait pas l'unanimité, que ça soit chez les journalistes sportifs anglais ou sur les réseaux sociaux. Et cet homme, eh bien, c'est Paul Pogba. Et cet homme, c'est Paul Pogba, c'est le seul joueur de cette équipe type qui ne fait partie ni de Manchester City, ni de Liverpool. Et beaucoup, beaucoup de gens se disent, mais qu'est-ce que fait Paul Pogba dans cette équipe type? Parce que c'est vrai que Pogba a fait des matchs, et notamment ces dernières semaines, extrêmement décevants avec Manchester United, qui n'a pas montré une régularité extraordinaire tout au long de la saison, mais c'est le meilleur buteur de Manchester United, et surtout à son poste, celui de milieu gauche, alors à vocation plus ou moins offensive selon le style de jeu et la configuration. Il n'y a pas vraiment meilleur que lui aujourd'hui dans le championnat d'Angleterre, et c'est pour ça qu'il a été désigné par les joueurs du championnat d'Angleterre dans son style. Après, c'est vrai qu'autour, bon, il n'y a pas beaucoup de surprises. Le gardien, c'est Ederson de Manchester City. En défense, il y a trois joueurs de Liverpool, Trent Alexander-Arnold, Virgil van Dijk et Andrew Robertson. Puis le quatrième, c'est un autre joueur de Manchester City, c'est Laporte, Aymeric Laporte, le Français, qui fait une très bonne saison malgré ses errements en Ligue des Champions qui ont valu l'élimination de Manchester City. Le milieu de terrain, c'est donc Pogba, Fernandinho de City et Bernardo Silva. Puis en attaque, Sterling, Aguero et Sadio Mané. Alors vous allez me dire, il manque quand même des sacrés clients dans cette équipe type. Oui, parce qu'il n'y a ni Mohamed Salah, meilleur joueur de la dernière saison. Il n'y a pas Harry Kane, qui était systématiquement dans l'équipe type depuis 5 ans. Et puis il n'y a pas Eden Hazard, qui est probablement le meilleur joueur de la Première Ligue sur ces 7-8 dernières années en cumulé. Alors, comment expliquer ça? Premièrement, je pense que Mohamed Salah a été victime de l'excellente saison de son coéquipier Sadio Mané. Salah a été moins efficace, un peu plus en dedans cet hiver. Il a eu du mal à récupérer physiquement de son enchaînement de blessures la saison dernière. Et puis la surprise, peut-être, c'est Bernardo Silva, le Portugais, mais il fait une saison discrète à son image, mais une saison de très très haute volée avec Manchester City. Et si Manchester City est champion à la fin de cette saison, ça sera grandement grâce à son ailier portugais qui est devenu un titulaire indiscutable dans l'équipe de Pep Guardiola, alors qu'au départ, il était plutôt remplaçant, voire même pas premier remplaçant, mais des fois même deuxième remplaçant. Il a fait l'an dernier une saison où il a quand même pas mal ciré le banc. Et là, c'est vraiment la belle réussite de la saison du côté de Manchester City.
Voilà donc Manchester City et qui a vu Paul Pogba figurer parmi l'équipe type de cette Première Ligue. Merci beaucoup Aurélien d'avoir été avec nous ce soir. C'est avec vous d'ailleurs que se termine cette édition L'Avant-Match. Merci beaucoup de l'avoir suivi et on se retrouve demain pour l'émission Studio Sport. Ça sera de 17h à 18h. Excellente soirée à l'écoute de Midi.
C'est pas terminé. Et demain, prêté pour un rendu entre l'Uruguayen et le Brésilien, une relation qui est en train de naître.